traverser la ville, non pas réussi. Mais où est le danger? Pas du tout le caparros. À cause du danger de Shahita Terefa. Est-ce que c'est clair? C'est là que le vrai problème. Ça y est, ça va? Stop. Écoutez. Oui, d'accord, d'accord. Je veux dire, parce que pour le territoire, quand il a dit 7 à moi, je les achète, on a dit OK. C'est pas si compliqué ça. Je veux dire, et là encore, vous avez relié deux problèmes assez différents. Cette Nehet en question, c'était des Palestiniens normaux. Je t'ai vendu, camarade. Est-ce que c'est clair? Bon. Mais là encore, je vais te dire, je ne me souviens pas d'avoir lu ce texte-là, mais je sais qu'il y en a eu beaucoup de ce genre, thème. Mais encore une fois, on ne peut pas traiter ces problèmes parce qu'il y a une option préalable qu'il faut d'abord définir. Si c'est l'option d'un Talmid Chacham sioniste, ou si c'est l'option d'un Talmid Chacham non sioniste. Si c'est l'option d'un Talmid Chacham non sioniste, je peux vous donner moi 1000 arguments pour ce dossier. Qu'il faut quitter Israël. Mais si c'est l'option d'un Talmid Chacham sioniste, tout s'inverse. Et on vous citera le Shulchan Aruch, non seulement qui fait la guerre, mais qui l'a fait point en tête. Et vous voyez que le problème. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Donc les dés sont pipés dans ce débat. C'est un autre débat, un tout autre débat, que Georges Ansel hier soir a refusé de traiter, c'est son droit. Mais qui est là, et qu'on ne peut pas nier, on referme la parenthèse. Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas à vous convaincre, ce n'est pas une question de conviction. Vous avez compris ce que je veux dire. Je vais vous faire un aveu. Moi, je suis personnellement extrêmement gêné dans ce problème parce que je me rattache à la Chita du Rav Kook, donc mon grand rabbin, c'est Rav Goren, des Ashkenazis. Or, je suis Sfaradi. Donc, du point de vue de la halakha, je suis soumis à l'autorité du Rav Ovadia Yosef, qui, lui, a dit des choses de ce genre. Donc, pour vous dire que tout est dramatique dans ce problème-là. Mais comme je suis très à l'aise, parce que je connais la halakha. Mais je comprends très bien que ceux qui sont un peu gênés du point de vue de la halakha se trouvent être désorientés. La seule phrase que je dirais, même si ça vous apparaît extrêmement paradoxal, c'est que le Rav Ovadia Yosef, pour des raisons qui sont les siennes, et bien qu'il soit le Rishon LeZion, c'est-à-dire le grand rabbin de l'État d'Israël, hein, n'est pas sioniste. Un point. Alors à partir de ce moment-là, tout est clair. Ça y est, c'est clair? Bon. Et je sais que les Sfaradim sont très gênés, même quand ils sont sionistes, parce que si déjà on a la gloire d'avoir un grand rabbin respecté par la Goudat Israël, c'est-à-dire par les Ashkenazim, alors, on le suit, les yeux fermés, et nous avons une gloire. Et d'ailleurs, c'est un homme glorieux, qui mérite la gloire, c'est un égaoni. Mais il y a une option préalable qui n'est pas la sienne. C'est son droit, il a un problème, comment se fait-il qu'étant dans son option, il touche son traitement de Begin, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un problème, et c'est son problème, c'est pas le mien. Alors, comme je connais la halakha, j'ai fait une chaîne, là, et j'ai eu la réponse. Je peux tranquillement suivre le Rav Goren rassuré. Vous voyez? Bon. Et moi, personnellement, vous débrouillez, vous allez voir votre rabbin et vous écrivez comment il faut faire. Bien, alors, revenons à la fin. Alors, on aborde le deuxième cas, et vous voyez, le fonctionnement de ces échantillonnages, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va chercher? C'est un jour merci de votre question qui nous a fait progresser. Qu'est-ce qu'on va chercher? La tendance, la trouna qu'il y a derrière. Okay? Alors, il n'est pas nécessaire que l'événement ait lieu en qualité. Et nous avons l'illustration sur l'Abraham. Voilà comment ça se traduit. On va prendre des talmides chachamim, les investir dans des corvées de guerre, ça décèle un doute de la foi. Deuxièmement, Omnam da'at Shmuel. Comment pense le deuxième rab, Shmuel? Bishvil shamar Abraham bameedar. C'est, selon Shmuel, parce qu'Abraham a dit, tu me promets la terre, et en quoi je ferai que je vais la mériter? C'est moi qui ai tout mérité, c'est pas dans le texte, mais ça sort de l'élaboration des commentateurs. Le texte dit Bamé et Darti Irachel. Comment, en quoi je ferai que j'en mériterai? J'ajoute un même et que je le mériterai. Clara Marnoux, déjà nous avons dit que Raoul et Abraham n'y opèrent Nicolas et Mouna, que à Abraham convient plus qu'à tous la foi, la vertu de la foi est là. Sache, nous dit le Maharal, que cet homme dont nous parlons avait la foi totale. De vous, Aya Ama Minarishon, lui a été le premier à avoir la foi. Asher Alav Nehema, c'est de lui qu'il a été dit, Vehemin Bashem, Asher Alav Tzedaka. Vous avez la référence là, du chapitre 15 de la Genèse. Ukvar Ra et Rachnu Benyana Emuna, Kima Ama Amin Raoui Shelo Ishtarbet. Et nous avons déjà appris que celui qui a la foi, il n'y a lieu pas convenable de s'asservir, de s'aliéner. Ah, autre que lui-même, celui qui a la foi est libéré par sa foi. Qui a harsh à meshroba du talou de ilato. Puisque la définition de celui qui est aliéné consiste à dépendre de quelqu'un d'autre que lui-même, c'est-à-dire de la volonté d'autrui, et d'avoir vu sa faire rouge à l'équipe, cette chose-là ne définit que ce qui existe faiblement. Il y a ici une catégorie très fine. Rouge à l'équipe, ce qui existe, oui, mais existe faiblement, fantomatiquement, n'existe pas vraiment. Abraham Amin, Asherou Yesod, Kayam Beemunat. Mais celui qui a la foi, et lui est le fondement, Yesod, lui existe par ta foi, existe dans le sens de qui, il existe fortement. Mitkayem. Il n'est pas, mais Elou, Shem Marbaem, Khulche Bamiti. Et il y a une clé de Zulato, celui qui a la foi en quoi il peut dépendre de quelqu'un d'autre, de Raoul, Chéou, Yesod, Kayam, Omed, Beatzmo, le Fichar. Amrouz, Al, de Midrash, Rabba, de Parashat, Shemot, l'homme, Galou, Avotenu, Mitraïm, et la Biskrut, Aemot. Et c'est pourquoi nos maîtres ont dit à propos de la sortie d'Égypte, nos pères, nos ancêtres n'ont été délivrés d'Égypte que par le mérite de la foi. C'est clair? Chez Noéma, Vaye Amen, Aham, Vaishmeaou, qui pakad Hashem et Ramon. Et le peuple crut, et ils ont entendu, accepté d'entendre, si j'ose dire, que Dieu avait, pas qu'à lâcher mes traces, que Dieu avait désigné son peuple. C'est-à-dire, ils ont cru ce que Moïse leur disait, le temps est venu où la promesse de Dieu va s'accomplir, de vous serez descendu en exil, mais je vous ferai sortir. Le cœur vers nous, qui a Emouna Mora al-Khozek Mesiyut Ama'amin, שמזה הצד יבוא האמונה, ושכך יש בו הגאולה, שלא יסתעבד לגאולתו, ובחסרון אמונה יש קשיים. Voilà donc de nouveau la formule, c'est dans le manque de foi que la cause de l'affermissement. Celui qui a la foi suffisante, eh bien, c'est que la relation de la promesse de Dieu à lui s'accomplit pour lui, et qu'il n'a pas besoin de ce, de s'appuyer sur un facteur extérieur. Par exemple, si vous voulez, un peu ce que nous vivons tous les jours, bon, c'est vrai, Dieu nous a promis cette terre, etc., mais voilà que l'Amérique est contre. Et est-ce que sans l'aide de l'Amérique, on pouvait avoir l'accomplissement de la promesse de Dieu? On t'a parlé d'une promesse, je vous parle mystique, okay? On t'a parlé d'une promesse de Dieu, tu me parles de l'Amérique? Enfin, c'est ça que le Maharal dit. Okay? Vous voyez à peu près le problème?
Est-ce que le surnom sioniste est un acte de manque de foi? Dans ce sens,
Si, comment dire, si vous me demandez, je ne sais pas répondre de Maharal,
hein,
non, mais c'est à moi, évidemment que oui, okay? c'est le fond même du problème, okay? C'est-à-dire, c'est un acte de manque de foi que dans ces événements-là, cette promesse s'accomplit, okay? Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas l'option sioniste n'a pas la foi que vraiment ces événements promis s'accompliront, mais il n'a pas la foi que c'est dans ces événements-là que ça s'accomplit. Et là, il y a vraiment une controverse, c'est pourquoi j'ai demandé hier soir si cette controverse est de la même nature que les marloquets habituels, ou c'est pas d'une toute autre nature. Okay? Nous avons l'habitude de dire que, dans des cas de ce genre, c'est insensé d'avoir une opinion personnelle. Il faut que ce soit l'autorité du peuple d'Israël qui tranche pour les individus. Ça n'a pas de sens d'avoir une opinion personnelle là-dessus. Et par conséquent, il n'y a pas à avoir une excommunication réciproque. Il faut donner le temps. Monsieur Levinas disait, en parlant d'actuel, l'esprit prend son temps. C'est sûr. Vous comprenez, Aristote a failli. Il faut donner le temps. Or, ça c'est uniquement un avis personnel. Est-ce que nous avons le temps? La règle, c'est qu'il faut attendre jusqu'à ce que les choses se dévoilent. Pour nos opinions personnelles, est-ce que nous ne sommes pas en plein cas d'urgence? Est-ce que nous avons le temps? Vous voyez comment il a fait? Stop. Ken?
Le problème de la foi, comme il dit, c'est que là, c'est le commun.
Attendez. Pas dans notre cas. Pas dans le cas de la Torah. Attendez, la Torah n'est pas une foi de ce genre. Attendez, laissez-moi expliquer si j'ai bien compris. Écoutez, je me rappelle d'un poème de Victor Hugo dans La Légende des siècles. Il s'agissait de la prise de Narbonne. Vous voyez pas où ça se situe?
Okay.
Rappelez-moi, j'ai oublié. Oui, alors qu'est-ce que dit, comment il s'appelait? Il y avait... Comment était c'était l'empereur, c'était la médecin Charlemagne. Hein? Il lui dit, Narbonne, je te la donne, va la prendre. C'est ça, donner. Ça veut dire, va la prendre. Vous comprenez que ce n'est pas la même chose. Hein? Est-ce que c'est clair? Ça a été clair pour tout le monde. Hein? Il ne s'agit pas du tout de se croiser les bras et d'attendre que Dieu agisse. Il s'agit de prendre acte que c'est le moment d'accomplir la promesse que Dieu nous a faite. L'olivios mitzpael et la poel. Hein? C'est ça la grande vie.
Alors, si l'autre est difficile, même pour le responsable,
ne me dites pas que c'est difficile pour un responsable. C'est son métier. Sinon, qu'il aille vendre des cacahuètes. C'est ça le problème.
Comme
carrément. Comme c'est bon, ça. Bien. Mais écoutez, pour nous les juifs, pour nous les petits juifs, c'est difficile, pas pour les années chamines. Et alors, moi, personnellement, j'ai une expérience très, 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 très précise. Je ne vais pas vous la raconter, c'est ma vie. Mais elle est connue d'ailleurs. Mais qu'il y a des temps où le diagnostic était très difficile, on peut admettre. Mais il y a des temps qui viennent après où ce diagnostic est plus évident. Alors, c'est là qu'entre-temps, la relation de fidélité risque d'être dramatique.
Mais,
je parlais par la vision, mais...
Pour nous, c'est évident à un tel moment, à tel aspect, pour d'autres, c'est évident, il y a bien longtemps, bien avant ça.
Oui, c'est juste.
Donc, c'est juste pas individuellement.
Mais non, mais on parle pas individuellement.
Pour les responsables, il est possible qu'ils soient exactement dans le même cas que vous.
Non, moi... Moi, je ne suis pas un responsable.
Non, mais...
Je suis un responsable. Quel? Vous comprenez le problème? C'est au niveau des responsables que ça se passe. Vous comprenez, moi, je serais vraiment... Écoutez, je serais vraiment un clown si je venais vous dire, moi, M. Askenazi, je pense que c'est clair. Non. Je suis Tahas des géants. Il y a d'autres géants. C'est entre eux que ça se passe. C'est pas à notre niveau. Je pense que c'est clair. Bon. Maman? Non.
Je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'à d'autres époques, même ces géants se sont...
Le problème,
mais il dit aussi que le diagnostic est plus...
Et nous, voilà.
Maintenant qu'il y a...
Oui, pourquoi? Ben écoutez, je vais vous dire, là c'est déjà un autre sujet. C'est, il faudrait prendre à bras le corps le sujet lui-même. Où sont les signes? Okay. Je peux vous dire qu'une seule phrase, c'est le caractère universel, massif, total... du refus de l'humanité vis-à-vis d'Israël, qui est le signe plus évident. Tout le monde est contre, donc c'est que nous avons raison. Ça a l'air paradoxal, mais c'est ça. Or ça, c'était pas évident il y a 30 ans. C'était pas évident au temps d'Hercel. C'était pas évident même au temps du Rakoukle, le père. Mais maintenant, c'est tellement massif, on nous matraque avec cette évidence qui est écrite dans les lignes, telle. Et alors là, on est paralysé par fidélité au diagnostic antérieur. Vous comprenez? Mais je ne crois pas du tout. C'est un problème entre nous, les petits juifs. C'est un problème entre les gnolis. Hein? Voilà,
c'est... Okay. finalement, ça aboutit à la destruction, pas abouti à l'extension, mais ça aboutit à la destruction de l'État. Alors, c'est un risque énorme de mettre, c'est pratiquement mettre l'État en danger.
Écoutez, moi je ne dirais pas, écoutez, moi je ne vous dirais pas, vous manquez de foi, je vous dirais, vous manquez de mémoire. Je vous ai mis un Yalcoutchim en lieu au début du texte. Au début du cours, vous étiez là quand j'ai vu le Yalcoutchim en lieu. Ah non, vous n'étiez pas là. Je veux dire que c'est d'une autre nature. C'est d'une autre nature. Là, il y a très simplement deux argumentations opposées. Okay. Faire la guerre, c'est détruire l'État. Faire la paix, c'est détruire l'État. Par conséquent, ce n'est pas les hommes qui doivent décider. Il faut que les Talmudim Chachamim sachent qu'est-ce que Dieu décide pour nous. Je pense que c'est clair. Vous comprenez, s'il n'y a pas l'option préalable que je vous ai appelée l'option sioniste, les deux argumentations sont au même niveau, et nous, vibrés. Je ne veux pas dire Elohim Chaim et Dieu. Les hommes vont dire, risquer une guerre encore maintenant, c'est sûrement détruire Israël. Masada. Okay? Alors bougeons pas, faisons pas la guerre. Okay? Mais les autres vont vous dire, négocier la paix à leurs conditions, c'est sûrement détruire le peuple juif tout entier. Alors ne faisons pas la paix. Vous comprenez? Les deux sont légitimes comme argumentation. On peut plaider sur les dossiers, mais c'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'est-ce que les sages d'Israël en pensent. Alors, moi, ça m'intéresse pas que le Rav Ovadia Yosef, que Vodou Mounar Vinkomo, parle comme un politicien. Ça m'intéresse pas. Je veux qu'il me parle comme un Chacham d'Israël au nom de la Kabbalah. Est-ce que c'est clair? Ouais, et ça m'intéresse pas non plus que quelqu'un du Beta me parle comme un stratège mussolinien. Ça m'intéresse pas. Je veux qu'il me parle comme un Talmid Chacham de la Kabbalah. Vous voyez le problème? Est-ce que c'est plus clair? Donc, quelqu'un avait quelque chose à dire? Moi je crois. Écoutez, quand je vous ai parlé des géants, je ne vous ai pas parlé du Rav Goren, du Rav Ovadia Yosef, je parlais d'autres. Okay. Les géants étaient avant. Okay. Les deux grands géants dont il s'agirait, et puis nous sommes, grâce à Dieu, pourvus en géants. Okay. Depuis Abraham qui est appelé Adam Anak. Vous vous rappelez du verset? Adam Anak, bah. Il faut que je retrouve. Abraham est appelé le géant. Okay. C'est la chita du Rav Kouk, le père, et la chita du Satmar, qui vient de mourir, du Satmerer, comme on dit, c'est mourir. C'était ça, les géants. Okay. Nous sommes des petits bons hommes, et puis la distance avec le Rav Ovadia Yosef, donnez-moi une longue vue, mais ils sont tout petits par rapport à ces grands-là, Egoren et le Rav, alors que ce sont, par rapport à nous, des planètes. Oui, c'était à d'autres dimensions que ça se passe. Okay. Mais il y a là un problème d'option, a priori, qui ne peut pas venir d'un shikul da'at, d'une analyse intellectuelle. Je vous le dis très rapidement, les deux dossiers peuvent être plaidés jusqu'à la fin des temps. Okay. Qui doit venir d'une connaissance par révélation de Moshe Rabbe. Alors ça nous écrase, ça nous dépasse, et alors nous allons dire, et à l'échelle de l'Église, comment il faut faire. C'est le Rav que tu vas choisir qui décèle qu'est-ce que toi tu avais déjà choisi. Okay. C'est à qui tu vas demander comment il faut faire, que ça montre qu'est-ce que tu voulais faire. Est-ce que c'est clair? Non, je crois que là, il faut dire la clause de l'impatience, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mon inquiétude, c'est est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on n'est pas en cas d'urgence? Ça s'accélère. Nous avons un rendez-vous politique le 26 mai. Vous voyez à quoi je fais pas allusion, le 26 mai. Okay. Alors, d'ici le 26 mai, on n'a pas le temps. Okay. On aura quand même un séminaire entre-temps, mais non, notre séminaire sera en juillet. Bon. Bon. Oui, mais très rapidement, parce qu'il faut qu'on continue le maral, et comme je vois, le deuxième chapitre, c'est déjà pour demain. Ça fait rien.
Il faut suivre les idées du Rav, ou le Rav adopté les...
Non, Rav, vois pas. Non, je vois pas.
C'est-à-dire se rattacher à des idées d'un Rav, se rattacher à un Rav, et après, prendre ses idées, même si on n'aurait pas pensé
l'instant. Écoutez, je ne veux pas être trop indiscret, mais vous parlez comme un chassid. Est-ce que c'est le cas?
Non.
Et alors, expliquez plus.
Je comprends pas. C'est-à-dire que, est-ce que... Doit,
Écoutez-moi, les idées du Rav, moi ça ne dit rien, il a le droit d'avoir les idées qu'il veut et les rêves qu'il veut. Il s'agit de savoir qu'est-ce que le Rav me dit au nom de la Torah. Ça n'existe pas, ça, les idées d'un Rav. Je crois qu'on est enfin en plein dans le fond du sujet. Qu'est-ce que c'est la Torah chez Baal-Pé? C'est pas que Rabbi Antel a pensé que, c'est que Rabbi Antel m'a dit que la Torah dit que. C'est très différent en nature. Est-ce que c'est clair? Ce que je vous ai appelé un peu le Shikul Da'at. Shikul Da'at, ça veut dire, j'ai une opinion sur le problème. Et puis, plus on est intelligent, plus ça fait autorité. Mais nous sommes dans un problème où les deux opinions ont autant de valeur et qu'on peut discuter à faire deux. Donc, c'est que nous sommes dans un malentendu. Le véritable problème, c'est qu'est-ce que, excusez-moi de l'image, mais qu'est-ce que mon cher Avenir, s'il était là, nous dirait? Et ça, c'est les Hachmé Israël qui sont chargés de nous dire ce que mon cher Avenir nous dirait, au nom de Dieu.
Et comment choisir le rabbin, le rabbin?
Voilà, ça c'est la question que Edith a posée. Okay. Je ne sais pas comment choisir le rabbin. Dis-moi quel rabbin tu choisis, je te dirai quel rabbin tu es. Tu as eu l'autre. Non, mais dis-moi quel rabbin tu choisis, je te dirai qui tu es. Or, comme même ça nous ne savons plus faire, comment choisir son rabbin, nous sommes dans une situation d'irresponsabilité, les petits juifs. La situation de responsabilité, c'est au milieu d'Israël. C'est ça que je voulais dire à propos de la Shoah. Tous les juifs qui ont été massacrés à la Shoah ne sont pas responsables de quoi que ce soit, et c'est des clochers Israël, mais qui nous s'attachent. S'il y a responsabilité, c'est au niveau des Golims, c'est pas au niveau des Kivis. Ça y est, c'est clair. Même jusque-là, nous sommes plus responsables. Désarroi total. Okay. C'est pourquoi nous nous disons un peu familièrement que le Messie n'a plus qu'une alternative, c'est de venir d'urgence, c'est de l'obrera. Okay. Nous avons besoin d'un éclaireur okay, qui nous éclaire. Ça y est, c'est clair. Alors, on va au deuxième. Et d'ailleurs, je crois qu'il est en train d'entendre mes supplications. Parce que, écoutez, il faut être sérieux. Ou bien tout ça c'est vrai, alors il nous écoute. Ou bien il ne nous écoute pas, alors on va vendre des cacahuètes. Bien. Alors voilà donc pour le deuxième point. Reprenez à. Ou le Fichar, Amrungal, juste avant la petite référence, le Midrash Rabbah, le Parashat Shemot, l'eau Nigalou, Avotenu Mitraïm, et la Bistrouda Emouna, Shememar, Vaya, Mena Am, Vaishmeru, Kipakada, Shemet Ramo, ou Kvar de Am. Et déjà nous avons expliqué que Emouna Mora, Al-Khozek Metit Hamaamin, que la foi, c'est la capacité de foi dans le sens qu'on a vu tout à l'heure. Faire confiance qu'une promesse, quelqu'un vraisemblable qu'elle soit, s'accomplira. Et quelle est d'ailleurs la promesse la plus colossale que nous avons reçue du Créateur? C'est le fait d'exister. Si Dieu m'a créé, dans le fait qu'il m'a créé, le jour où je suis né, c'est une promesse colossale qu'il m'a donnée, tu seras. Avoir foi, c'est, d'une certaine manière, entendez-le, à la fois au registre le plus élémentaire, mais au registre le plus fort, c'est avoir la foi que ma vie a un sens. Est-ce que c'est clair? Et que ça veut dire ma vie? Ma vie de juif. Donc, que l'histoire vive a un sens. Donc, ce qui concerne les péripéties de l'histoire d'Israël a un sens qui s'accomplira. Et donc, on part d'une définition métaphysique à une définition historique politique. Est-ce que c'est bien clair? Parce que ça se passe sur Terre, dans l'histoire. Et donc, si Dieu m'a créé comme lui, en me créant, il me donne la promesse que mon Messie viendra. Et quand les événements mettent en question cette promesse, avoir la foi, c'est croire, avoir la foi que, quelle que soit la lieu des événements, l'accomplissement est au bout. Okay. Donc, alors je traduis. Qui a émouna, car la foi, mora, al chosek metiut amal, montre, désigne la force d'existence de celui qui a la foi. Shomizé atab, yavo émouna. Parce que c'est de là que vient la foi. C'est celui qui est capable d'exister plus qu'à la foi. Parce que exister plus, ça veut dire exister plus que la réalité des apparences. Rattaché à ce problème ou à d'autres, la formule est la même. Aussi car il est beau à Géoula, chez l'Oïs Kabel, les Géoulato, et c'est pourquoi la conséquence de sa foi, c'est la délivrance qui fera qu'il sera vraiment libre un jour, qui ne sera plus asservi, aliéné à autre. Notre problème contemporain étant, qu'est-ce que vont dire les goïms? C'est ça notre aliénation. Qu'est-ce que vont dire les goïms? Ce que vont dire les goïms, on s'en fout. Parce qu'on sait à l'avance ce qu'ils vont dire. Ils vont dire non, c'est tout ce qu'ils ont dit. C'est ça. Bon. Mais en tout cas, chers amis, et encore, hein, et depuis, lorsque tu comprendras le problème de la foi en sa vérité, alors tu sauras qui raouille, ni chez Khotebeh, ni chez Itabeh. Voilà le fond du problème. Qui sera que celui qui faute par rapport à la vertu de la foi, il est normal qu'il soit aliéné. Il est normal qu'il soit affaibli. Pourquoi? Parce que ce n'est que lorsqu'il aura l'expérience de la libération qu'il apprendra qu'est-ce que c'est la foi. J'ai trop raccourci le raisonnement ou ça va? Bien. Quelqu'un manquait de foi. Alors on va le mettre en condition de voir la vérité de la foi. On va la faire vivre et le délivrer. Seul celui qui a l'expérience de la Géoula peut savoir, peut avoir fait son tikkun de la Emouna. C'est le sujet que je commencerai demain. C'est pourquoi ce même Moïse a fait faire la Géoula d'Israël, il leur a donné la foi, après il leur a donné la Torah. La Torah ne concerne que ceux qui ont eu la foi. Est-ce que c'est suffisamment clair ou déjà trop télescopé? Ken.
Parce qu'au moment de la libération, à la fin du tikkun, quand il fera l'expérience de la libération, il connaîtra ce qu'est la foi.
Voilà.
Alors je pose la question de savoir si c'est le moment où il retrouve la foi qui le libère, ou si c'est la libération, si cette question a un sens.
Elle a un sens plein, énorme. C'est une très bonne question. C'est une tête de chapitre. Je vais être un peu plat en disant que c'est la même chose. Ça dépend des tempéraments, je pense. Je pense que ça dépend des tempéraments. Les uns sont menés à découvrir que la foi est vraisemblable parce qu'ils ont expérience du printemps de la liberté, je ne sais pas comment dire, quel. Et puis pour les autres, ce serait l'inverse. Mais à l'échelle du clan d'Israël, c'est la même chose. Ici, ce que le Maharal a voulu nous expliquer, c'est en quoi l'exil est le tikkun de la foi. Pas en tant qu'exil, mais dans son programme complet. Premièrement exil, deuxièmement libération. Et c'est Baruch Ata Hashem Gaal Israël, Adonai Fatay Tissa. À qui on fait la prière? À Dieu qui s'appelle celui qui nous a sortis d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte qui nous fait comprendre qu'on peut prier Dieu. C'est en me référant à cette expérience de ma mémoire, je suis sorti d'Égypte, que je sais que je peux demander à Dieu d'accomplir sa promesse. Parce que j'ai la preuve qu'il l'accomplit. Écoutez, je pense que ce serait intéressant d'élargir cette situation propre à Israël dans son histoire, à la condition existentielle de l'homme comme créature. Et j'ai l'impression qu'on pourrait dire cela. L'existence de l'homme comme existence, c'est ce même problème que nous avons vécu historiquement. Que l'humanité a été appelée à la vie de ce monde-ci pour faire cette expérience-là, que nous faisons, nous, juifs, de façon exemplaire, en tant que peuple témoin. Mais que c'est cela, la vie, c'est être en Égypte, et qu'il faut apprendre à savoir qu'on peut s'en libérer, alors on sait qui est Dieu qui nous a créés. Est-ce que c'est suffisamment clair? Je suis de plus en plus persuadé que cela, de cela, que quand la Torah nous parle de la sortie d'Égypte comme expérience nécessaire pour Israël, pour être le peuple des prêtres de l'humanité, c'est que cette expérience de la sortie d'Égypte pour Israël concerne la condition existentielle de l'humanité en tant que créature. Vivre dans l'histoire des hommes, c'est vivre en exil. Et alors, savoir qu'on peut sortir de cet exil, c'est cette expérience de la foi. Il n'y a pas d'autre expérience de la foi possible que celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Ça veut dire sortir des vies. Celui qui n'est pas sorti des vies ne sait pas que ça veut dire croire en Dieu. Et par conséquent, il faut en faire. Pardon, j'ai pas entendu. Non, mais il fallait entrer pour en sortir, voilà ce que le Maharal dit. On aurait pu économiser cela, mais on n'a pas économisé cela. C'est tout. Et s'appuyant sur ces enseignements étranges de la Gemara, Rabbi Abaou, on a mobilisé les Bachoré Yeshiva, etc., s'appuyant sur ces enseignements apparemment étranges, le Maharal nous montre la profondeur, dans la profondeur de son explication, quelle était la tendance profonde. Je vais aller un peu plus loin avant de me raccrocher à votre question. Ça veut dire qu'avant d'être créé, nous manquions de foi là où nous étions. Et qu'on nous a envoyés dans ce monde-ci pour apprendre la foi. Et je vous ai dit une chose énorme, ok? Bon, qui s'en souvient? Pour dire ceci, au fond, celui qui pourrait avoir la mémoire de sa naissance aurait la mémoire de la sortie. Parce que qu'est-ce que ça voulait dire naître? Sortir de l'Égypte embryonnaire à la libération de la naissance. C'est pas par hasard que les Midrashim vont prendre systématiquement cette image-là pour nous parler de la sortie d'Égypte, un accouchement. Et il y a trois manières d'être né par accouchement, soit accouchement sans douleur, soit accouchement au forceps, soit il faut risquer la césarienne qui tuera la mère pour ne pas tuer l'enfant. Vous voyez à peu près le sens de cette image. Et alors, je pense qu'il y a là une intériorisation de l'expérience de ce problème, que qui aurait la capacité de mémoire du moment de sa naissance saurait que Dieu existe, celui qui m'a fait naître. C'est ça que nous disons en termes historiques, qui m'a fait sortir de l'histoire. Quel ? Attendez, non, mademoiselle avait demandé. Ah, c'est plus fort, Jean-Sébastien. Est-ce qu'elle marche pas ? Emma ?
Oui, la phase, c'est-à-dire la héroïne, vous dites, il faut y aller au niveau justement de la reconstruction d'un état de nos jours, où est la phase, où est le problème de...
Bon, eh bien, très bonne, vraiment très bonne question. La difficulté est pour la fin du deuxième église, ni pour le premier, ni pour le dernier. Mais, et ça, on pourrait aussi en parler. Là, il faut mettre en évidence une toute autre catégorie. C'est que la sortie d'Égypte nous apparaît bien donc comme un point de départ, un seuil irréversible mais de réussite que partielle. Tout ça sera remis en jeu. D'où deuxième exil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous l'avons dans d'autres chapitres du Maral, dans énormément de sources. Dès le début, Moïse est averti qu'il y aura d'autres exils. Dès le début. C'est-à-dire une sorte de diagnostic porté. Je vais vous sortir, Ken. Mais la manière dont ça va se passer me montre que ça va recommencer. Va leur dire, Ehyé Asher Ehyé. Moïse dit quoi? Il y a encore un autre exil. Parce que ça veut dire, dit le Midrash, je serai avec eux dans l'exil futur comme j'ai été avec eux dans l'exil actuel. Va leur dire ça, ils reconnaîtront que c'est des mots qui parlent. Et alors, Moïse dit, mais alors, ça suffit d'un malheur à la fois. Comment je vais leur dire? Vous allez sortir, mais préparez-vous à recommencer. Ken. Et alors, Dieu lui dit, tu as raison, d'ailleurs, ce que je voulais te dire en vérité, c'est uniquement Ehyé. Tu veux savoir mon nom total, vrai, c'est Yahshé Ehyé. Mais va leur dire Ehyé. C'est clair? Je suis avec vous. Top. Et pour énormément d'autres indices, très rapidement, il y a ce diagnostic pour porter. Il y aura encore une remise en jeu dans les. Mais la catégorie qu'il faut mettre en évidence, et je m'appuie de nouveau sur Yalkut, tu m'en ai dit tout à l'heure, mais je pense que vous n'étiez pas là, c'est ceci. Pendant tout le temps de l'histoire, on va essayer la première stratégie par votre propre mérite. Et si ça ne marche pas par votre propre mérite, dans tous les cas, vous aurez l'expérience de la libération, et je vous le donne, même sans votre mérite, définitivement, parce que moi, j'ai décidé. Zacha Achishena, lo Zacha Veita. Il faut restituer cette catégorie-là qui est très importante. Dieu aurait souhaité, si j'ose dire, que la leçon serve. Et si la leçon sert, il n'y a plus besoin d'autres élus. Mais si la leçon ne sert pas, dans tous les cas, à la fin, vous serez libéré de force, et c'est fini, que vous méritiez ou pas. Parce que je vous ai choisi, je sais pourquoi. Est-ce que c'est suffisamment comme réponse?
Pour moi, ça
Oui, et celle-là, très bien. Celle-là, cette troisième aurait pu être la deuxième du temps des hommes. Toutes les sources sont claires. Et rappelez-moi que vendredi, on peut donner rendez-vous pour vendredi matin. Nous aurons un test de Gemara là-dessus. Mais là, toutes les sources sont claires. Rappelez-vous la source qui dit 6000 ans, 2000 ans Tohu, 2000 ans Torah, 2000 ans Yemot HaMashiach. Ces 2000 ans Yemot HaMashiach auraient pu commencer là, au temps de la sortie de Babel. Ça veut dire que notre troisième exil maintenant aurait pu être à ce moment-là. C'est pas si simple que ça non plus. Comment on aurait traversé Yavan, Edom, etc. On l'aurait traversé aussi quand même, mais en situation de gloire, et pas en situation d'oppression. Et tous les textes sont clairs. C'est-à-dire que si la sortie de Babel au temps de l'Ezra avait réussi, c'est elle, celle de la fin des temps. La source est Pshuta. 2000 ans Tohu, 2000 ans Torah, 2000 ans Yemot HaMashiach. Donc, quand les prophètes ont prophétisé pour la fin des villes de la fin des temps, ça pouvait être au temps de l'Ezra. Et comme nous n'avons pas réussi par notre propre mérite, alors rendez-vous à la fin des temps total, le Keta Acharon, et là, il n'y a plus de question de mérite. Et là, je reciterai encore le Roi Chaim. Je veux dire, peut-être qu'il faut approfondir ce point, parce que c'est très important. Nous avons fini, je vais un peu dans la logique du Maharal, nous avons eu tous nos exils pour apprendre la foi. Nous avons fini ce temps d'apprentissage. Et que nous ayons appris par nous-mêmes, ou pas par nous-mêmes, ça y est, ça nous est donné, c'est fini, on a réussi. Pourquoi ? Parce que Dieu a un programme, et il faut penser toutes les données du problème en même temps, vous comprenez ? Et aujourd'hui, à mon sens, cette scrupule, cette hésitation, y a-t-il ou n'y a-t-il pas suffisamment de mérite, c'est fini, on est dépassé par ce problème-là. Les événements ont pris une telle massivité planétaire qu'il n'y a plus de questions, ça nous dépasse, de mérite individuel. C'est très important le mérite individuel, il faut qu'on arrive le plus propre possible au rendez-vous. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais le rendez-vous est déjà fixé, il ne dépend plus de notre mérite. Le monde entier nous a donné à la fin des rendez-vous pour la guerre de Gog et Magog, pour nous détruire. Alors ça veut dire qu'on y est, on est arrivé. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Ce n'est pas de la prophétie que je suis en train de vous faire. Essayons de lire les journaux ensemble et prononcer ce qui se passe. Si nous, Juifs, surtout les enfants de cette génération qui a connu le nazisme, n'arrivons pas à voir quelle est la nature de cette massivité de l'universel humain contre Israël, et nous parlons à Paris au cœur du problème, alors c'est que nous sommes sourds et aveugles définitivement. Ça veut dire, je vous dis là une chose que je devrais justifier par de patientes citations, mais je pourrais le faire. C'est ceci, nous avons abdiqué l'option de volonté, et l'option de volonté libre pour mériter ou pas. Déjà les événements se sont déclenchés de manière massive et dépassant la question du mérite individuel. Est-ce que c'est clair ? Eh bien, ça y est, c'est le cas. Nous souhaitons, nous souhaitons que ce soit pour le meilleur. Et si c'est pour le pire, tant pire. Mais nous souhaitons que ce soit pour le meilleur. Mais les autres sont au rendez-vous. Le monde entier sait que, ou bien on résout le problème à l'échelle planétaire, ou bien la planète saute. Ils sont arrivés au rendez-vous. Et ça veut dire quoi en termes des problèmes qui nous concernent ? Ou bien il y aura la paix à Jérusalem, ou bien c'est la guerre affreuse dans le monde entier. C'est très bien que c'est comme ça que ça se met en place. Et qui ne le voit pas, ne le voit pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ceux qui ne voient pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, quand eux-mêmes commencent à le dire, on ne pourra résoudre les problèmes inouïs du risque de conflagration entre les deux blocs que si Israël accepte les Palestiniens, qu'est-ce que ça veut dire d'autre ? C'est-à-dire, si vous nous résolvez votre petit problème là du Moyen-Orient, le monde a peut-être une promesse de survie, sinon on va sauter. Alors, est-ce que c'est clair ? Ça peut vouloir dire autre chose, tout ça ? Ken ? Je ne sais pas, mademoiselle, hier, m'a dit, mais qui dit des bêtises ? Vous croyez qu'à ce niveau-là, on dit des bêtises ? C'est pas des bêtises. Et nous n'avons pas du tout le besoin qu'il y ait une sorte de phénomène de prophétie mystique qui nous diagnostique cela. C'est tout simplement les textes de la tradition qui nous renvoient à ce rendez-vous-là. Est-ce que j'ai été suffisamment clair ? C'est-à-dire que les événements de cette troisième fin de vie, ce n'est que l'achèvement de ce qui a commencé au deuxième. Il y avait deux problèmes. Au commencement, la sortie d'Égypte, à la fin, la fin des exils. Et puis, la deuxième étape a été divisée en deux. Commencement de la fin et la fin. Mais c'est la même étape. Il y a que deux étapes. Okay.
Matériel, et que maintenant le problème qui se pose pour ce dernier exil, c'est de sortir justement d'un niveau matériel et entrer dans un niveau spirituel, c'est-à-dire de bien comprendre et de mettre à sa place l'aspect matériel et de redonner vraiment sa dimension.
Bien sûr.
Ça. Enfin, je parle pas.
Mais il y a autre chose.
Qui parle de l'exil, de l'Égypte, ça, qui ne voit peut-être que un peuple qui sort d'une région, qui va dans une autre, dans un pays. Maintenant, il y a aussi la dimension de soi-même en face du matériel.
Il y a aussi cela, mais c'était vrai aussi quand on a sorti d'Égypte.
Oui,
c'est pourquoi quand on a sorti d'Égypte, il y a deux étapes. La sortie d'Égypte et le Sinaï. Okay. C'était vrai aussi quand on a sorti d'Égypte. Non, mais là, je vais vous parler un peu plus dans un vocabulaire religieux plus profond. N'oubliez pas que tout ça commence à la création du monde. N'oubliez pas que tout ça a une dimension métaphysique, ontologique totale. Le Créateur, en sauf, nous l'a créé, nous les créatures. Et tout ça, c'est une péripétie historique visible d'un problème religieux fondamental que le Créateur a voulu créer la créature. Et que nous sommes arrivés à la fin de ce processus historique. Est-ce que c'est un peu clair que ça ? C'est-à-dire, le rendez-vous que nous avons, c'est avec Dieu lui-même. Vous comprenez? Et il ne faut pas oublier cela. Ken. J'essaierai de l'exprimer de la manière suivante. Le sentiment qu'il faudrait avoir, c'est que la période d'apprentissage est en train de prendre fin. Et que tous les schémas qui étaient valables dans le temps de l'apprentissage éclatent à partir du moment où nous savons que le rendez-vous, c'est le rendez-vous avec le Créateur. Mais, je pourrais faire mienne une des remarques de Georges Ansel. Ce soir, nous avons été pris par le temps, course contre la montre. Les choses sont allées trop vite. Et alors, je crois très profondément que maintenant, nous n'avons plus possibilité de peser sur les événements par le mérite individuel. Regardez la massivité des choses, je ne sais pas comment vous dire, ça se met en place. Et alors, si vous connaissez le calendrier de la Kabbalah, vous serez affolé. Donc, il vaut mieux que vous ne le connaissiez pas. Parce que ça se passe exactement dans les dates de la
Kabbalah. Il faut que chacun prenne conscience de ce qui se passe.
Ça, il faut que les chefs prennent conscience. Voilà, oui, je reviens au problème du jour. Il faut que les grands prennent conscience. Oui.
Parce que vous venez de dire là, c'est pas loin de « on n'a rien à faire ».
Ah non.
Je voudrais que vous vous rappeliez ce que vous avez dit tout à l'heure en disant pour
Narbonne.
Bon, alors, c'est vrai que les événements sont tels, mais attention, peut-être que le moindre geste que je fais maintenant en bougeant cette chaise, peut-être peut avoir une répercussion de ça. Et
sur, pas l'événement lui-même, puisque c'est Dieu qui agit, sur à quel prix pour nous les créatures. Voilà.
Mais
et à mon sens,
les grands et nous, c'est peut-être pas aussi évident. Je veux dire que c'est peut-être pas les grands qui ont tout entre les mains.
Il y a un texte comme ça qui dit ça se passera de deux manières. Ou bien c'est le peuple qui marchera et les chefs suivront, ou bien c'est les chefs qui iront et le peuple suivra. Là, il y a une place pour ce que vous dites. Peut-être que pour nous les petits, si on marche en avant, les chefs suivront.
Je dis de manière très très générale, on ne peut pas savoir l'importance d'un
peu. Et alors, c'est pourquoi, à mon sens, phrase non payée par l'agent lui, la seule chose que nous avons à faire, c'est avec les pieds. Il faut partir. Et voilà, c'est tout. Et vraiment, phrase non payée par l'agent lui.
On dirait avec les oreilles.
Et en tant qu'il faut partir. Là, parce que, comment dire, parce qu'il y a deux faces au problème. Il y a le problème. Qui nous concerne, nous, les Juifs, et il y a le problème qui concerne, nous, les non-Juifs. Et le problème qui concerne, dans le problème qui concerne les non-Juifs, il y a malheureusement cette clause de l'antisémitisme. J'ai été très frappé du fait que la manifestation des étudiants arabes au Caire contre l'ambassade d'Israël avait...